Dans l'actualité des idées aujourd'hui, France, Autriche, Afghanistan, un djihadisme sans frontières, partout dans le monde. Est-ce la même histoire qui continue à s'écrire, 5 ans après les attentats du 13 novembre, et alors que la France a été la cible d'une série d'attaques terroristes en moins d'un mois, près des anciens locaux de Charlie Hebdo, à Conflans-Sainte-Honorine, puis à Nice, dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Comment interpréter ces actes et penser la réponse? Notre invité est spécialiste de l'Afghanistan, de la Turquie ou encore de la Syrie. Il est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, auteur il y a un an de Le reniement démocratique chez Fayard, un livre, le livre d'un Français de retour chez lui, qui constate la montée des inégalités et l'émergence d'un nouvel ordre social, un livre différent des précédents. Gilles Doron-Soro, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Guerre civile, attaque contre notre civilisation. Il faut aller plus loin, plus vite aussi contre l'islam radical. Il faut reprendre le contrôle de nos frontières. Que n'a-t-on entendu depuis cette série d'attaques qui a commencé il y a quelques semaines? On va réécouter ces mots et vous nous direz ce que vous en pensez dans la bouche de Pierre de Villiers. Il est l'ancien chef d'état-major des armées après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans. Il évoquait sa crainte d'une guerre civile.
Je crois qu'on peut pas reprendre le fil de notre histoire comme on l'a fait après les derniers attentats. On dit ici ou là que maintenant c'est fini l'omerta, on a manqué de courage, on va en avoir, on va mener cette guerre. Eh ben oui, il faut la mener. Moi j'ai mené cette guerre en défense de l'avant, en Afrique, au Moyen-Orient avec nos soldats courageux. Vous savez, en face ils sont déterminés. Hein.
Il y a un risque de guerre civile en France aujourd'hui ou pas?
Il y a un risque de guerre civile, évidemment. À partir du moment où un professeur, à la sortie de son collège, se fait décapiter, rendez-vous compte de ce que c'est en termes de gravité, après le chapelet d'attentats qu'on subit, et dans le contexte de faiblesse actuelle de notre peuple qui subit la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique, dans un environnement instable au plan géostratégique, bien sûr que nous sommes vulnérables. C'est pour ça que j'ai écrit sur la réconciliation. Il est urgent de se réconcilier.
Un cap a été franchi, a aussi réassuré l'ancien ministre Bernard Cazeneuve, un risque de guerre civile. A-t-on raison d'avoir peur aujourd'hui, Gilles Doron-Soro?
Alors, on a probablement raison d'avoir peur de nouveaux attentats, ça c'est même statistiquement probable si on regarde l'évolution de ces dernières années. Par contre, l'idée de guerre civile est une idée qui est à la fois fausse, fausse parce que au contraire, on est de moins en moins dans une perspective de guerre civile, je vais essayer de vous dire pourquoi, et aussi dangereuse parce que ça amène à des mesures qui sont totalement décalées par rapport aux événements. Alors pourquoi c'est pas une guerre civile et pourquoi ça l'est de moins en moins? Parce qu'on a affaire à des groupes de moins en moins organisés. En fait, dans les années 80-90, vous aviez le Hezbollah, le Fatah, le groupe islamique armé, qui faisaient des attentats en France pour des raisons qui étaient à la fois franco-françaises et surtout pour des raisons de réseaux transnationaux. Enfin, c'est une façon de faire pression sur la France. Et ensuite, on se retrouve devant une décennie sans rien, sans attentats, hein, 2000-2009. Et ensuite, on a une série d'attentats qui, en nombre de morts, culmine avec le Bataclan, hein, 130 victimes, l'attentat de Nice. Et ce qu'on voit à partir de ce moment-là, c'est une dégradation de la capacité d'organisation. Il n'y a même plus d'organisation. C'est-à-dire que ce qui est, en un sens, extrêmement frustrant, c'est que le crime est énorme et que, en fait, les responsables sont généralement morts. Ensuite, on trouve des microcellules de 4-5 personnes. Et donc, en fait, non, c'est tout sauf une guerre, parce qu'on n'a pas d'ennemis au sens structuré. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a même pas de réseaux transnationaux véritablement. Donc voilà, donc c'est pas du tout une guerre civile. C'est un problème social, c'est un problème politique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces gens qui de fait se suicident, hein, qui commettent des attentats, ils se suicident. Enfin, ils se font tuer par les forces de l'ordre, mais c'est du quasi-suicide. Ces gens-là ne sont plus dans un véritable projet politique. Et là, on a même une différence par rapport à ce qui s'est passé au Bataclan, par exemple. C'est véritablement des radicalisations dans des micro-groupes, individuels ou dans des micro-groupes, souvent sur Internet, et l'idéologie apparaît de plus en plus comme quelque chose qui est un peu rajouté. Hein. Évidemment, c'est des gens qui n'ont qu'une connaissance livresque de l'islam, qui ne sont pas intégrés dans des réseaux savants de discussion théologique. Donc c'est des gens qui sont souvent des ratés sociaux, des délinquants, des anciens délinquants. Et on voit bien que là, on n'est plus du tout dans une logique même d'affrontement politique. On est autre part.
On a quand même entendu cette idée d'agir au nom d'eux, hein, pour venger Dieu. C'est ce que racontent notamment les collégiens qui ont croisé l'attaquant de Conflans. Est-ce que le djihadisme, aujourd'hui, se nourrit aussi ou est nourri par ces envies de revanche, ces individus certes isolés, mais quand même radicalisés?
Alors, de revanche, oui, mais là, je crois qu'il y a un point important, et c'est central dans les stratégies de prévention. C'est que on est dans des incitations individuelles, on n'est pas dans des organisations politiques. Parler de guerre, avoir un discours sur la guerre, c'est à un moment donné mettre en place des dispositifs, qui sont des dispositifs de type militaire ou par des forces spéciales. Et qu'est-ce qu'on fait contre un migrant tunisien qui arrive seul en France, qui a des tout petites connexions? Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche la guerre à qui? On fait la guerre à qui? Qu'est-ce qui se passe à Conflans-Sainte-Honorine quand on a un jeune d'origine tchétchène qui, d'ailleurs, n'a pas de rapport avec la Tchétchénie, d'ailleurs, mais qui en fait se radicalise en quelques mois, un an et demi, qu'est-ce qu'on fait? On déclare la guerre à qui? Voilà, donc c'est là que je pose la question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'orienter nos politiques, comme d'habitude d'ailleurs depuis le début, dans un sens qui est profondément contre-productif?
Qu'est-ce qui serait contre-productif? Ce serait d'ouvrir, d'enclencher une sorte de guerre sans fin?
Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui on fait la guerre. Donc de toute façon, on ne fera pas la guerre parce que on n'a pas vraiment les moyens d'aller envahir l'Afghanistan. C'est ça l'astuce. Enfin, je veux dire, on s'est retiré d'Afghanistan fin 2014 pour l'essentiel. L'année où l'État islamique s'est implanté en Afghanistan. Donc soyons sérieux. Toute la politique américaine, Irak, Syrie, ça a été une politique totalement à contre-temps, systématiquement, et elle a un rapport direct avec l'émergence de l'État islamique. Donc sur l'international, de toute façon, il faut abandonner cette rhétorique, on n'est pas efficace, on a été à contre-temps. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est contre-productif par rapport à la société française? C'est d'abord parce que on a, depuis quelques années, un empilement de législation sécuritaire qui profondément fragilise nos libertés publiques. Hein. Pour ceux que ça intéresse, regardez le dernier rapport des droits de tout le monde, donc le défenseur des droits. Bon. On a véritablement un problème sur les manifestations publiques, hein, sur les arrestations, ces arrestations administratives. Et ce qu'on sait, c'est que ces mesures n'empêchent absolument pas les attentats. On a, deuxièmement, et ça me paraît encore plus grave, l'émergence d'une néo-laïcité qui est en rupture profonde avec le principe de 1905 sur deux points. C'est un peu la même chose, mais c'est quand même un peu distinct. Premier point, c'est que on fait de la laïcité qui, à l'origine, était une régulation des rapports entre l'État et la religion, une discipline personnelle. C'est-à-dire qu'on en fait une régulation des comportements individuels dans l'espace public. Donc c'est une rupture avec la forme initiale de la laïcité. Et deuxièmement, ce qui me paraît encore plus grave, c'est qu'on fait des valeurs républicaines le fondement de cette néo-laïcité. Or, les valeurs républicaines, on ne sait pas ce que c'est. On sait ce que sont les lois républicaines. On ne sait pas ce que sont les valeurs républicaines. Et en fait, là, on a un problème. Les valeurs républicaines, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le racisme à la Zemmour? Est-ce que c'est la version chevènementiste? Est-ce que c'est la version mélenchoniste? Qui définit les valeurs républicaines? Personne. Et je pense que là, on est en train de glisser vers quelque chose qui est un contrôle du social, qui sera profondément inefficace pour ce qui est des attentats, mais qui va créer des tensions sociales extrêmement fortes en France.
Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la devise aussi, liberté, égalité, fraternité, et derrière cette devise des valeurs qui peuvent y être associées et réunir ou être communes à tous, non?
Ah oui, il y a une valeur notamment qui est la liberté d'expression. Mais ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est que au nom de la liberté d'expression, les demandes qu'on voit aujourd'hui sont des demandes de restriction de la liberté d'expression. Quand un groupe d'intellectuels écrit un article, une pétition dans Le Monde demandant à ce que on mette en place une instance administrative chargée de faire remonter des cas d'atteinte aux principes républicains. Mais je me dis, mais qui va définir ces principes républicains ? Dans le champ intellectuel, il y a une ouverture sur les principes républicains. Voyez profondément, être contre l'avortement dans les cas de viol et d'inceste, est-ce que c'est contraire aux principes républicains ? Ce qu'on appelle les principes républicains. Je vous posais la question, je ne suis pas sûr que vous ayez une réponse, moi non plus. En tout cas, on sait qu'il y a quand même des catholiques convaincus qui sont contre l'avortement dans ces cas-là. Qu'est-ce que c'est le principe républicain appliqué, par exemple, à ce qu'on appelle le séparatisme ? Ça devient très compliqué. Est-ce que les totos, par exemple, enfin les zadistes, etc., sont séparatistes ? Oui. Est-ce que les gens qui vivent dans des monastères sont séparatistes ? Oui, ils sont non-violents, pour l'essentiel. Mais, effectivement, ils sont en rupture avec certaines valeurs républicaines. Donc, vous voyez, ce qui m'inquiète, c'est que on est en train d'essayer de créer une idéologie officielle. Et ça, c'est pas très bon signe pour le débat public, et je crois que c'est pas très bon signe pour la société française.
Alors, il y a justement une loi contre le séparatisme qui est en préparation. Est-ce qu'elle fait fausse route pour vous ?
Bon, alors, déjà, elle est en préparation, et ça n'est plus une loi contre le séparatisme, d'ailleurs, ce qui n'est pas inintéressant du point de vue du recalage des termes. Je pense que le risque, bon, à partir du moment où c'est un projet de loi, c'est toujours un peu compliqué. Le risque, il y a des choses qui peuvent être très soutenables, notamment sur la polygamie, ou le fait que certaines femmes sont exclues du droit d'héritage, etc. Donc, il peut y avoir des mesures techniquement que, moi, je trouve plutôt intéressantes. Mais, le problème, c'est que on va être dans une définition du séparatisme qui, en fait, va être extrêmement large, ou sinon on va cibler un groupe social ou un groupe politique spécifiquement, et là ça va être interdit par le Conseil constitutionnel. Donc ça va être des législations très larges qui vont être appliquées ensuite à énormément de choses. Pensez à toute la législation d'urgence après les attentats du Bataclan. Elle n'a pas servi uniquement à lutter contre la menace terroriste. Ça a été la base de la transformation du droit à manifester, du droit d'arrestation administrative, etc. Donc en fait, ce qui m'inquiète...
Donc il ne fallait pas la faire ? Il ne fallait pas renforcer les dispositifs de sécurité à ce moment-là ?
Alors, qu'est-ce qu'on appelle les dispositifs de sécurité ? Est-ce que le droit de manifester a un rapport quelconque avec les attentats ? Je ne suis pas sûr. Je suis même sûr du contraire. Est-ce qu'on parle de la surveillance d'Internet ? Oui, là, oui, il faut renforcer la surveillance d'Internet. Mais auquel cas, il faudrait peut-être commencer par faire en sorte que les plateformes type Facebook, etc., soient responsables des contenus, soient juridiquement responsables de ce qui est publié. Or, on sait qu'ils ne font pas le travail. Donc oui, ça, ce serait des mesures, je pense, positives. Justement parce qu'on est dans des formes qui sont non politiques, extrêmement difficile pour les services de police à détecter, à repérer. Et donc, à partir de ce moment-là, la législation, si elle doit évoluer, c'est plutôt sur des formes de surveillance, de ce qu'on appelle les signaux faibles, donc radicalisation sur Internet, etc., qui apparemment est efficace pour éviter un certain nombre d'attentats. Mais remettre en cause, parler comme faisait un élu local, de s'exonérer des lois de la paix, Estrosi, pour pas le nommer... Je pense que là, on est en train de basculer vers quelque chose qui, franchement, n'a plus rien à voir avec les attentats. Les attentats servent de point de fixation, en raison de l'émotion assez légitime, l'immigration, la surveillance, les mouvements communautaristes, tout devient, en fait, causalité par rapport à ces attentats. Or, on ne sait pas exactement comment contrer des attentats comme ça. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire.
Il y a une menace.
D'où le fait... Excusez-moi.
Non, oui. Pardon, vous le dites vous-même, il y a une menace qui est difficile à établir et à identifier, hein, Gilles de Ronceau. Et là encore, on l'a vu depuis plus d'un mois, avec l'attentat aussi de Conflans. Vigipirate a été à nouveau élevé à son niveau attentat. On essaye à chaque fois de repousser un peu les lois, de renforcer les dispositifs sécuritaires. Est-ce que ça peut aider ou pas ? Est-ce qu'il faut tenter de s'ajuster, ajuster aussi le diagnostic à la menace ? Je vous propose juste d'écouter les mots de l'un de vos confrère, il s'appelle Gilles Kepel, et il parle, lui, d'erreur de diagnostic.
Il y a eu, en fait, un assez mauvais diagnostic au départ. Vous savez, Le premier véritable attentat de cette nébuleuse en France, ce n'est pas Charlie Hebdo, c'est l'affaire Mera. Et Mera appartenait à cette mouvance.
Et qu'on a eu beaucoup de mal à cerner, c'est vrai.
Oui, à l'époque, le patron du renseignement disait, il a d'ailleurs réitéré au procès d'Abdelkader Mera, que c'était un loup solitaire. Ouais. Et ça, c'est une erreur absolue qui nous a coûté extrêmement cher parce que c'est ce qui a empêché d'analyser avant même 2015. Alors après, ça s'est beaucoup changé et aujourd'hui, le renseignement est très, très au fait de toutes ces choses. Mais à l'époque, on a été complètement pris au dépourvu, enfin, en tout cas, les services de l'État, par l'affaire Charlie Hebdo à cause de la mauvaise analyse du phénomène.
Voilà, et Gilles Kepel, auteur de Sortir du chaos il y a 2 ans chez Gallimard, de parler d'un djihadisme d'atmosphère face auquel notre dispositif législatif ne serait plus opérant. Gilles de Ronsoro, d'accord avec lui?
Alors, bon, c'est toujours un peu compliqué. Là où on peut être d'accord, c'est qu'on est dans des, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans des formes de moins en moins organisées. D'où même la difficulté à parler au sens strict de djihadisme à partir du moment où il s'agit d'engagements qui sont alors pas exactement individuels, mais micro-sociaux. Hein, c'est 4-5 personnes. Hein. Voilà, c'est le frère, le père éventuellement, la fiancée, la femme. Bon, voilà. Donc on est devant ça. Donc on est dans des formes qui sont micro-sociales. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Après, ou là, je pense que je suis un peu en désaccord, c'est l'idée qu'il y a une mouvance. Or, il n'y a pas de mouvance. C'est ça notre problème, c'est qu'il n'y a pas de mouvance. C'est-à-dire que le fantôme, c'est de penser qu'on va démanteler un certain nombre d'associations, plus ou moins salafistes, donc on va considérer comme salafistes avec tout le problème juridique que ça va poser, des gens qui n'ont pas explicitement appelé à des attentats, à partir du moment où la plupart des salafistes sont quiétistes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va empêcher des attentats parce qu'on aura fermé un certain nombre de mosquées? Est-ce que ça va empêcher, par exemple, pour prendre le cas du Tunisien ou du Pakistanais, est-ce que ça va les empêcher de commettre un attentat? La réponse, elle est non. La réponse, elle est clairement non. Voilà.
Mais c'est quand même en revenir à ce qui serait ou ce que seraient les causes aussi de cette violence. Elles sont où pour vous? Comment vous les situez?
Alors, vous avez différents niveaux de causes et à chaque fois, il ne s'agit pas de causes mécaniques, il s'agit de propensions, de probabilités. Et ce qui est très frustrant pour le public, c'est qu'on n'a pas de réponse claire et nette. Il y a des choses qu'on sait. On sait que la France est une cible spéciale. Hein, voilà. Alors pourquoi? C'est compliqué. On n'a pas plus de personnes musulmanes en France que dans d'autres pays européens. On n'a pas plus de migration, plutôt moins souvent, en tout cas par rapport aux Allemands. On a une législation qui est très dure, extrêmement dure par rapport, contrairement à ce que les gens pensent souvent. On a une police qui est raisonnablement efficace et qui se retrouve face à des choses extrêmement compliquées à gérer. Voilà, donc voilà, on a une spécificité française. Après, il y a certains chercheurs, comme Rosra-Havar notamment, Farhad Rosra-Havar, qui expliquent que c'est notre rapport à l'islam, l'espèce de durcissement de la laïcité et du rapport aux musulmans français, qui est une des causes. C'est possible. En même temps, les discriminations anti-musulmans, qui sont réelles en France, sont pas pires que dans d'autres pays d'Europe. Donc, en fait, les systèmes de causalité sont pas très évidents à trouver, hein, même d'un point de vue comparatif. Alors après, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des causes plus internationales qui sont la création de l'État islamique. Et là, c'est une responsabilité ultra directe de l'occupation américaine en Irak. Bon, ça, on est sûr. On est sûr également que tout ce qui s'est passé en Afghanistan, la politique ratée des pays occidentaux, enfin surtout des Américains en Afghanistan, fait que on n'a pas du tout démantelé Al-Qaïda. Au contraire, on a renforcé les structures d'Al-Qaïda. Donc voilà. Alors, entre les deux, vous avez des causes intermédiaires sur des réseaux transnationaux, la capacité à les contrôler. Et encore une fois, puisque tout se joue, enfin, beaucoup de choses se jouent sur les réseaux sociaux et Internet, notamment sur l'attentat de Conflans, c'est clair. Voilà, on n'a pas non plus un contrôle très efficace de ces réseaux.
Cette semaine, nous sommes 5 ans après les attentats hein, du 13 novembre qui ont fait plus de 130 morts et plus de 400 blessés en 2015 à Paris. Alors on disait à ce moment-là, plus jamais ça. Aujourd'hui, quelles sont, c'est pas les leçons à tirer de tout ça, mais comment interpréter ce retour à nouveau, ce surgissement de la violence? Parce que c'est bien ça qui marque aussi aujourd'hui. Hein.
Surgissement, peur, Mais encore une fois, on n'a pas de système explicatif très efficace. Voilà. Quand vous avez un groupe d'intellectualistes, c'est la faute des islamo-gauchistes ou c'est la faute de l'absence de contrôle de la migration, alors que la plupart des gens qui commettent ces attentats sont français ou depuis très longtemps sur le sol français. Quand on a des demandes, on va fermer toutes les mosquées salafistes, mettre en prison les salafistes. Tout ça, vous voyez, c'est pas extraordinairement efficace. Hein. Voilà, ça, on le sait. Après, encore une fois, il n'y a rien de plus décevant pour l'opinion publique quand on explique, effectivement, il n'y a pas de vraie solution à ça. Hein. C'est pas de renforcer les cours d'éducation civique ou enfin leur forme actuelle dans les écoles qui va changer quelque chose à la donne. Hein. Voilà, donc ces politiques publiques sont essentiellement des politiques publiques mal dirigées. Hein. C'est un travail de renseignement et de contrôle d'Internet qui peut effectivement empêcher un certain nombre d'attentats, et il y en a qui passeront, parce que c'est un travail extrêmement complexe, c'est des signaux très faibles. À chaque fois, a posteriori, on peut considérer qu'on aurait pu le trouver, on aurait pu le détecter, mais véritablement, il n'y a pas de profil suffisamment précis des gens qui passent à l'action violente pour que ça soit très utilisable. Hein, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire.
Vous qui êtes,
on n'a pas un profil type.
Ouais, vous qui êtes chercheur, professeur à Paris 1 en sciences politiques, vous qui partez régulièrement sur des terrains d'opération de la Turquie, Syrie, Afghanistan, ça ce sont vos champs de bataille et de recherche également, Gilles de Ronsoreau. Quand vous revenez en France régulièrement, et si on reprend un peu ce qui était d'ailleurs la méthode de ce dernier ouvrage, Le reniement démocratique, dont on évoquera j'espère un mot, quand vous revenez là, que vous êtes ici, qu'il se passe ce qui se passe et que vous entendez tous ces débats comme ceux qui ont lieu depuis l'attentat de Conflans, cette gauche qui se déchire autour de ces termes islamo, pas islamo-gauchiste, laïcité, néo-laïcité, sécurité, une partie des intellectuels parlant, pointant l'aveuglement des autres intellectuels. Vous ne comprenez pas ces débats ?
Ah si, je les comprends. Je suis même pris dedans. Je les comprends. Par contre, je pense qu'ils sont profondément nocif à partir du moment où il s'agit pas de discussion, il s'agit essentiellement d'insultes.
Hein. Stérile ou nocif ?
C'est nocif de s'insulter alors qu'on a un problème social extrêmement grave et que les intellectuels passent leur temps à s'insulter sous le mode islamo-gauchiste ou autre. Je pense que c'est pas très productif. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une radicalisation ou un clivage, une polarisation du champ intellectuel. Il a atteint un degré où simplement la mise en place de protocoles de recherche va être compliquée. C'est-à-dire simplement rechercher, par exemple, si les logiques de radicalisation à l'école, il y a des choses très intéressantes qui ont été écrites là-dessus. Bon, voilà, ça va être compliqué parce que il va y avoir cette idée, si vous écrivez quelque chose, vous mentionnez le fait que peut-être il y aurait de l'islamophobie en France, bien vous allez être catégorisé islamo-gauchiste et vous pourrez rien faire. Voilà, moi je pense que ce qu'on est en train de perdre, c'est la capacité à faire de l'analyse, de l'expertise. Vous souvenez de Valls, expliquer, c'est déjà un peu excusé. Donc si on reste dans cette logique, on perdra la capacité peut-être d'avoir un peu quand même quelque chose comme une réponse. Hein. Sachant que les sciences sociales sont souvent assez démunies quand il s'agit de passage individuel à la violence. On n'a pas de vrai schéma explicatif très fort.
Invité jusqu'à 13h30, le professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, à distance, mais avec nous, Gilles de Ronsoreau.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et vous évoquiez, Gilles de Ronsoreau, la place prise par les réseaux sociaux, par Internet, par le numérique dans ce monde sans frontières où les idées et les images circulent et infusent. Est-ce qu'il y a, et c'était la question de départ, entre ce qui se joue en France aujourd'hui, entre l'Autriche qui a été pour la première fois frappée par un attentat, premier attentat islamiste en Autriche, voilà comment l'a qualifié le chancelier Sébastien Kurz au moment où il s'est produit le 2 novembre dernier à Vienne, et entre l'Afghanistan dont vous nous parliez, Gilles de Ronsoreau, est-ce qu'il y a il y a quand même des discours et des références communes aujourd'hui ?
Alors peut-être, Je vais prendre une question dans l'autre sens, si vous permettez. D'abord, on va marquer des différences. Ces différences sont absolument centrales. On a en Afghanistan, mais aussi en Irak, en Syrie, dans d'autres pays, au Mali jusqu'à un certain point, des mouvements qui sont extrêmement structurés, qui sont des vrais mouvements combattants, et qui veulent le pouvoir d'État et qui vont probablement l'avoir dans certains cas, notamment en Afghanistan où les talibans ont de facto gagné la guerre. Donc vous voyez que les talibans, d'ailleurs, qui ne sont pas, jusqu'à preuve du contraire, impliqués dans des attentats transnationaux. Donc on a des vraies machines politiques. On a du militantisme, des idéologies constituées et des gens qui sont là avec un vrai projet. C'était le cas de l'État islamique. Mais l'État islamique, contrairement aux talibans, a eu une politique d'affrontement tous azimuts avec toutes les puissances régionales qui auraient pu le soutenir, hein, notamment l'Arabie saoudite, qui avait une position initiale plutôt favorable. Bon, sans rentrer dans les détails, ce qu'on peut voir, c'est que ces organisations, elles sont dans des logiques classiques, finalement. Hein. Ça peut être des organisations totalitaires comme l'État islamique, mais c'est des choses qu'on connaît fondamentalement. C'est une politisation de toute la vie. Le takfir, bon, c'est simplement des formes d'excommunication dans le cas de l'État islamique qui sont politiques, qui amènent éventuellement à des choses qui sont proches du génocide ou des projets génocidaires. Ça, on sait comment ça marche. Il y a des détails techniques qui sont parfois peu clairs, mais on voit la logique. Hein. Et vous voyez que c'est totalement différent de ce qui se passe en Europe. Alors maintenant, pour ce qui est des connexions, moi j'appelle ça des connexions. D'abord, vous avez la circulation des personnes. La circulation des personnes, elle a été particulièrement forte dans les premières années de l'État islamique. Il y avait des gens, effectivement, qui venaient, alors qui allaient en Syrie, qui revenaient. Il y a toute cette circulation qui s'est beaucoup raréfiée, simplement parce que l'État islamique existe encore comme organisation, mais plus comme territoire, califat, bon. Donc on a moins de gens qui circulent. Aujourd'hui, c'est plutôt la deuxième forme qui est prédominante, c'est-à-dire la radicalisation à distance, hein, sur Internet. Alors cette radicalisation, et c'est pour ça que c'est compliqué de parler de djihad au sens strict, c'est beaucoup des petits groupes, des individus qui vont trouver sur Internet absolument tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est-à-dire souvent n'importe quoi. C'est-à-dire ils vont trouver une jurisprudence islamique un peu particulière, ils vont en rupture en tout cas avec la tradition, ils vont trouver aussi des conseils, des conseils quasiment techniques pour commettre des attentats. Vous aviez autrefois la revue de l'État islamique, Dabiq, qui était effectivement un peu spécialisée dans ce genre de choses. Donc voilà, donc ce qui reste, c'est quoi? C'est une communication à distance. Ça, c'est sûr, avec les effets de radicalisation que ça a. Et puis, deuxièmement, un imaginaire. Et l'imaginaire, c'est effectivement la lutte contre le grand Satan, contre l'impérialisme occidental, toutes ces choses qui sont effectivement structurelles, et puis une revendication aussi contre les États occidentaux qui feraient une mauvaise place aux musulmans de leur pays, etc. Donc voilà ce qu'on trouve. Mais les liens essentiels, je pense, les liens effectifs, ils sont dans la socialisation sur Internet. Il n'y a plus beaucoup de contacts directs.
Voilà, ce que vous dites aussi, c'est une projection, hein, par les imaginaires, des organisations qui petit à petit perdent du terrain, sans totalement disparaître, perdent des batailles, mais des idées qui restent présentes dans les esprits. Je voulais qu'on aille juste avec un dernier témoignage en Afghanistan, terrain que vous connaissez bien, l'Afghanistan où des pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans ont débuté à Doha. Revenons juste sur le terrain avec le témoignage de Niloufar Ibrahimi. Elle vient d'être élue au Parlement afghan il y a 2 ans. Elle est installée aujourd'hui à Kaboul et elle raconte dans un documentaire, une série documentaire diffusée sur Arte, Afghanistan, pays meurtri par la guerre, de Maïté Carrasco et Marcel Mettelsiffen, la désolation au quotidien.
Aujourd'hui, quand vous sortez à Kaboul, même à 6 heures du matin, la première scène que vous voyez, ce sont des enfants qui vendent des stylos, des babioles en plastique, qui cirent les chaussures. Nous avons des milliers d'enfants affamés dans les rues. Combien de nos jeunes ont émigré? Combien se sont noyés en mer? Combien ont perdu la vie en fuyant le pays? Devrais-je aussi tout quitter, laisser mon pays derrière moi?
Quels sont aujourd'hui, Gilles de Ronsoreau, les enjeux de cette paix en discussion, en négociation à Doha pour l'Afghanistan? Il y a bien sûr l'avenir du pays, de son peuple, de cette population, et ça va bien au-delà encore.
Alors, bon, il ne s'agit pas véritablement de négociation de paix. Il s'agit de la forme que va prendre la reddition du gouvernement actuel. Puisque avec la décision du retrait par Obama en 2012, l'idée c'était effectivement qu'on laissait les talibans gagner la guerre. Bon, enfin, il faut bien voir que ça fait presque 10 ans qu'on a abandonné cette couche de la population, les éduqués, pour faire simple, tous ceux qui étaient progressistes, enfin, dans des limites assez précises de la société afghane, tous ces gens-là, on les a abandonnés. On les a abandonnés assez cyniquement, tout en maintenant un grand discours sur la démocratie. Donc les enjeux aujourd'hui, de toute façon, on sait que le futur système politique, dès qu'il sera stabilisé, ce qui risque de prendre un certain temps, sera un système fondamentaliste assez dur. Hein. Pourquoi ? Parce que les élites au pouvoir à Kaboul aujourd'hui ne sont pas des élites libérales. Là, on a eu l'interview de quelqu'un qui est dans une position très spécifique, mais qui ne représente pas du tout, malheureusement d'ailleurs, la moyenne, si vous voulez, le centre de gravité des élites à Kaboul. Donc, de ce point de vue-là, quelque part, c'est, pour être brutal, c'est réglé. Hein. Après, pour nous, qu'est-ce qu'on en retire ? Premièrement, le fait qu'on n'a aucune garantie sur ce que vont faire les talibans par rapport à l'Al-Qaïda. Donc, probablement, les membres d'Al-Qaïda vont continuer à séjourner en Afghanistan. Ce qui, après 20 ans de guerre, donne envie de dire tout ça pour ça. Par contre, le seul point positif, c'est que les talibans sont relativement efficaces dans la lutte contre l'État islamique. Et là, effectivement, ils ont eu des vrais succès. On peut espérer, d'ailleurs éventuellement avec une aide occidentale indirecte, que l'État islamique peut être repoussé, voire détruit sur la frontière afghano-pakistanaise. Voilà ce qu'on peut espérer.
En un mot, Gilles de Ronsoreau, vous travaillez sur quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je travaille sur une autre zone de crise sur le Mali. Voilà. Avec des problématiques qui sont en partie celles de mes terrains précédents, mais aussi avec des particularités extraordinaires. Bon, c'est mon premier terrain africain, si j'enlève un séjour il y a très longtemps dans la guérilla de l'UNITA. Et je suis en train de redécouvrir un autre univers de références culturelles, et c'est absolument merveilleux, puisque intellectuellement, c'est comme un peu une renaissance, voilà.
Et toujours cette question aussi des guerres civiles qui est au cœur de vos travaux. Je le signalais enfin, la parution d'un essai un peu à côté, un peu étrange par rapport à votre parcours habituel il y a un an, le reniement démocratique, c'était chez Fayard, où vous évoquiez et travailliez sur les effets des politiques néolibérales, ce thème qui n'est habituellement pas le vôtre, à travers cette idée d'une génération qui a été élevée dans l'idée de progrès, qui est confrontée aujourd'hui à une crise politique, sociale et écologique. À quoi s'ajoute, depuis l'apparition de votre livre, d'une crise sanitaire, le démantèlement de l'État-providence? On en paye aujourd'hui les conséquences. Et on le voit, j'invite les auditeurs à lire ce livre ou à vous réécouter sur France Culture. Vous étiez l'invité à l'occasion de sa parution de notre confrère Sylvain Bourmeau dans la suite des idées. Merci beaucoup à vous, Gilles de Ronsoreau, d'avoir été
merci,
avec
c'est moi
nous.
Qui vous remercie.
Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide toujours très précieuse à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Félicie Faugère avec Anthony Thomasson. Demain, je vous donne rendez-vous avec une femme photographe, Sabine Weiss, et la question de la guerre d'Algérie et des mémoires dans les familles avec le nouvel ouvrage de Raphaël Branche. Bel après-midi sur France Culture.